Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du 17 mai 2024, ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 et de CHIZ 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver à nouveau cette semaine. Avec l'éternel... L'éternelle interprétation des chiffres... mais qui essentiellement ne disent pas grand-chose. Un autre sondage politique était sorti cette semaine. Et rien n'a vraiment beaucoup changé. C'est pas catastrophique, même si on tentait de dire que Gabriel Nadeau-Dubois était en eau trouble. Surtout parce que le sondage avait été commandé avant la sortie de Québec solidaire. Parce que non, ça ne va pas bien chez Solidaire. Oui, il y a des baisses d'appui. Mais on est dans les erreurs de plus ou moins 3%. Et on donne un genre de moins 2 à Gabriel. On est dans la marge d'erreur. On est encore. On est encore dans les probabilités. Donc, pas de grande perte ni de grande victoire. Paul est stable. François Legault est stable. Ben, ils en ont tout un peu perdu, finalement. À part Éric qui fait plus un, fait que lui, il se pète les bretelles avec son plus un. C'est pas encore l'hécatombe. Mais la question est lancée dans le Code Québec solidaire. Est-ce qu'on veut être un parti d'idées? Un parti qui ne prendra jamais le pouvoir ou un parti qui va prendre le pouvoir? Est-ce qu'on veut être, à Québec solidaire, le Bloc québécois du provincial? D'être là pour être là, mais de pas avoir d'envie de prendre le pouvoir. Dans le cas du Bloc québécois, c'est normal. Il n'y a pas d'autre représentation ailleurs qu'au Québec. Mais Québec solidaire, en ce moment, s'arrange pour avoir pas beaucoup de représentation en dehors de Montréal. Blague à part. Parce que Sherbrooke, ça continue de bien aller. Là, maintenant, la co-porte-parole féminine temporaire est la députée de Sherbrooke. Mais si la tendance se maintient, ça va pas bien pour les deux représentants de la capitale nationale. En ce moment, et Étienne Grandmont et Sol Zanetti se font battre par le PQ. C'est tout dire. Si le PQ est aussi fort que ça à Québec... parce qu'il y aura du changement. Dans le positif, peut-être. Saint-François. L'autre moitié de la ville de Sherbrooke pourrait être enclin à voter pour Québec solidaire. Donc, il y aurait un moins 2 à Québec, mais il y aurait un plus 1 en Estrie. Évidemment, ben là, l'Abitibi est perdu au complet. Ça va être plus difficile à aller rechercher maintenant qu'Émilie a décidé de claquer la porte. Mais qu'adviendra-t-il de Québec solidaire en général? La question va être lancée. De toute façon, il y a énormément de rencontres qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Notamment, c'est pas une convention, mais il y a une rencontre qui va avoir lieu du côté de Saguenay, Jonquière, si je me trompe pas, où les représentants de Québec solidaire vont probablement devoir se pencher sur la question « Est-ce qu'on fait un virage pour suivre Gabriel et vouloir devenir un parti qui aspire à devenir le prochain gouvernement pour vrai? » Ou si on reste campé sur nos positions et qu'on veut pas devenir un parti comme les autres. Et tant qu'à ça, ils peuvent repartir Option nationale. Ça peut, si ça leur gosse tant que ça, ils peuvent refaire naître Option nationale. Ça serait dans les bacs. Quoique. Évidemment qu'on va tenter de rester unifiés. Mais est-ce que les solidaires un peu plus centristes ou les solidaires un peu plus avides de pouvoir qui pourraient être d'accord de se délaisser des grands principes fondateurs mais qui gagnent aucun point sur l'échiquier électoral ferait en sorte que peut-être que là, on aurait plus de chances de gagner. On ne sait pas. Mais c'est sûr que dans l'imaginaire... Québec solidaire est un parti de Montréal, ne plaît pas aux régions ou ne connaît pas la réalité des régions. Du moins en dehors des grands centres. Et c'est là que peut-être il y aura des percées. Mais on le verra plus tard. Techniquement, oui, parce qu'au dernier vote de confiance, Gabriel Nadeau n'avait pas gagné avec 52 % des voix. Là. Il y avait un nombre quand même assez élevé au moment où on a choisi Mélise de Santérien également. Fait que oui, il y a eu une lettre de 40 contre Gabriel, mais on a répliqué quelques jours plus tard avec une lettre de pour 80, avec 80 en faveur de Gabriel. Fait que évidemment, on peut poser la question, est-ce que vraiment il y a tant de grogne que ça? Donc voilà, là c'est la croisée des chemins pour Québec solidaire. Ça sera peut-être pour définir ce qu'il adviendra de Québec solidaire. En étant troisième dans les intentions de vote, ça dépend des chiffres. Là, on est à peu près égal avec le Parti libéral, fait ex aequo quatrième avec le Parti libéral, si le PQ ramasse tout, suivi par la CAQ, les deux autres à 13, 14, 15 % des voix. Fait qu'encore une fois, c'est pas des gains, c'est pas des pertes, quelques pertes, mais c'est pas non plus en route pour une victoire écrasante, ceci dit. ...12% pour Québec solidaire. Je pense que les libéraux sont un petit peu plus élevés. Il s'agirait du pire score de Québec solidaire depuis février 22. Selon le Journal de Québec, soit quelques mois avant les dernières élections générales où ils avaient obtenu 15,4 aux élections. Fait qu'on est dans le plus ou moins 2-3%. Fait que tu sais, ça se toffe. Conseil national, voilà, du parti qui aura lieu à Jonquière dans deux semaines, du 24 au 26 mai, au cégep de Jonquière. Cégep que j'ai côtoyé. Les membres de Québec solidaire seront appelés à décider, voilà, s'ils adoptent en totalité ou avec des modifications la déclaration de Saguenay. Il s'agit d'une première étape qui s'inscrit dans la vision pragmatique du chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois annoncé après le départ des milices de Santérien. Avec ce but-là, sauf erreur de justement parler davantage aux régions. PQ est à 32, était à 34. François Legault était à 24, tombe à 22. Parti libéral est à 17. Donc, techniquement, les vrais troisièmes, c'est le Parti libéral suivi par Québec solidaire. Mais encore une fois, le vote libéral, lui aussi, est énormément concentré à Montréal actuellement. Donc, rien n'est joué. C'est un coup de sonde qui n'a pas nécessairement... qui n'a pas nécessairement pris en compte les derniers éléments, ou sinon c'est à peu près en même temps, fait qu'à quel point c'est vraiment représentatif de l'État, mais comme on le dit, c'est des sondages, c'est des instantanés du moment, donc on a une idée de quoi pourrait avoir l'air l'élection, mais c'est encore une fois dans 2 ans seulement. La question s'est même posée, est-ce que Paul Saint-Pierre plafonne déjà trop rapidement? C'est pas complètement impossible, mais en même temps, faut pas chercher non plus à tout interpréter soudainement, au sens où, oui, la montée de Paul Saint-Pierre a été impressionnante, a été rapide. C'est sûr qu'il va perdre des plumes jusqu'aux élections, parce que ça ne peut pas rester à plus de 30 % pendant 2 ans non-stop. En tant que troisième opposition officielle, troisième opposition, sont-ils officiels? C'est plus clair. Je me souviens, on a essayé, mais là, ils sont 4 maintenant. Éventuellement, il y aura une élection partielle si Éric Lefebvre, dans Arthabasca, finit par partir pour aller se présenter au fédéral. Parce que pourquoi ne rien faire au provincial quand on peut aller rien faire au fédéral? Homme de conviction qu'il est. Blague à part, mais c'est juste de déclencher des élections... déclencher des élections partielles pour un an et demi. Au prix que ça coûte, il devrait y avoir une amende. Ça, plusieurs le disent. Les gens qui quittent avant la fin de leur mandat pour X raisons devraient rembourser, si ce n'est pas la totalité, une grande partie de l'élection partielle qui est déclenchée par la personne qui quitte son siège avant la fin du terme pour lequel il ou elle s'était engagé à être là pendant un minimum de 4 ans. Parce que l'attrait du pouvoir au fédéral est plus intéressant que l'attrait de perdre au provincial à la prochaine élection. Quoique, sauf erreur, dans la circonscription d'Éric Lefebvre, il n'était pas en danger dans les quelques... caquiste qui allait survivre. Il me semble qu'il n'était pas dans les plus en danger. Québec 125 pour la circonscription d'Arthabasca survivait à la vague péquiste. Avec un bon 4 points, 3 points d'avance. Victoriaville et tout ça. Fait que, non. Dans le même ordre d'idées, député de Terrebonne, Pierre Fitzgibbon, qui ne s'engage pas à terminer son mandat lui non plus. C'est ça qui est particulier. Il ne dit pas clairement qu'il va finir. Mais en même temps, il dit pas non plus qu'il va rester jusqu'à la fin. Il dit « Vous allez apprendre le matin même, la journée, je vais démissionner. » Aux journalistes, c'est pas encourageant. Les gens de Terrebonne, mettons, c'est pas encourageant de savoir que votre député il est à ça de s'en aller. Juste la journée qu'il va être tanné, il va s'en aller. C'est le fun après ça de savoir « Ah oui, on a voté pour lui, on avait confiance, nanana, wow, je vais m'en aller quand ça va me tenter. » C'est pas... ça donne pas une bonne ambiance, mettons. Tu sais, les gens de Terrebonne ne doivent pas se dire « Hey, on a fait un bon choix, quelqu'un qui voulait devenir notre représentant à l'Assemblée nationale ou le ministre de Nordvolt, peu importe, au choix. » Lui non plus ne survivrait pas de toute façon à la vague du Parti québécois. 20 points de retard pour Pierre Fitzgibbon en ce moment. Mais on le sait, de toute façon, qu'il n'allait pas se représenter. C'est certainement pas Pierre Fitzgibbon qui ferait 4 ans dans une opposition au Parti québécois. Ça, de toute façon, c'était prévisible. Mais qu'ils le disent plus ou moins clairement que de toute façon, il va finir par s'en aller, ça, c'est un peu plus inquiétant qu'un Éric Lefebvre qui essaye de partir en catimini pour essayer de faire le moins de bruit possible et que finalement, ben, c'est un petit peu dur de partir quand on a des fonctions en plus dans ce gouvernement-là. T'sais, un député d'arrière-ban fâché qui n'a pas eu de fonction, on trouve ça un peu normal, entre guillemets. T'sais, la dame qui a fait s'écrouler la CAQ dans Joël, dans la circonscription de Québec, dans Jean Lesage, Joël Boutin. Bon, ben ça a pris le monde par surprise. Parce que, justement, elle-même pensait devenir ministre, elle l'a pas été. Bon, ben finalement, je vais me trouver d'autres occupations à LCN. Tandis qu'Éric Lefebvre, qui était quand même important dans le caucus, qui décide de quitter lui aussi du jour au lendemain, parce que, oh, l'attrait du fédéral est plus important. Pierre Fitzgibbon n'ira pas au fédéral, ça, c'est sûr et certain. Mais, c'est ça, de comme publiquement dire « Non, je vais démissionner, la journée, je vais démissionner, puis vous le saurez à 8 h le matin. » C'est pas des grandes convictions. Là, tu fais pas comme « Ah oui, lui, il était là pour les bonnes raisons. » Ça, c'est difficile à croire. On s'arrête quelques instants. Au retour, la suite de ce deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Adieu Narcisse avec « Je me soucie ». Il est en un mot. Je me soucie. Sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Article intéressant. Intéressant. Je sais que des fois, j'ai tendance à être un peu défaitiste, un peu à rire jaune de ce qui se passe dans l'actualité, mais toujours dans un regard bienveillant parce qu'on se prend des fois beaucoup trop au sérieux. Et justement, dans cette idée de beaucoup trop au sérieux, mais en même temps que c'est vrai que c'est un questionnement qu'on pourrait avoir, on a pu lire dans le Devoir cette semaine que il y a place à amélioration de la langue française dans les médias, donc dans le média que l'on écoute, que vous écoutez en ce moment, la radio. On a posé la question, ou plutôt, il y a une chercheuse qui s'est concentrée, je vais finir par y arriver, et justement, elle me reprocherait probablement mon manque de cohérence dans mes phrases, mais étude qui se concentrait sur la langue française dans les médias d'aujourd'hui, les anglicismes et les vulgarités qui s'invite à la radio. Vous verrez pourquoi j'ai l'air un peu confus, mais je n'avais pas l'article qui date de cette semaine. Parce que l'article que j'avais sous les yeux date d'il y a très exactement 20 ans, où on titrait également « Français dans les médias, il y a place à amélioration ». Donc, s'il y a une tendance, c'est que les médias d'aujourd'hui, il y a 20 ans ou aujourd'hui même, ben ça parle donc bien mal dans les radios. Ne serait-ce que d'avoir dit donc ben, ça rentre dans les impropriétés de la langue française, donc je suis de ceux qui parlent mal à la radio. Et je me suis posé la question, notamment en ayant lu l'article de cette semaine, est-ce qu'on est trop familier lorsque l'on s'exprime à la radio, dans un média radiophonique? Parce que oui, moi le premier, il va y avoir des contractions dans mes phrases. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais la faire, cette contraction-là. Est-ce que ça fait en sorte que mon français devient moins bon que les autres qui font leur grande phrase « Il n'y a pas de problème » Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point on veut encore que la langue parlée se colle à la langue écrite. Parce qu'essentiellement, si on parle mal, entre guillemets, c'est parce qu'on ne parle pas comme on écrit. Comme l'on écrit. Non, comme on écrit. Hein? Des belles erreurs de phrase. Je vais maintenant être beaucoup trop conscient de tout ce que je vais dire dans ce segment-ci. Un langage familier, des anglicismes, parfois même des vulgarités font quotidiennement leur chemin jusqu'aux oreilles des auditeurs sur les radios publiques privées du Québec. C'est le constat d'une étude sur l'état du français de la radio dans les conclusions présentées cette semaine. Marie-Josée Olson, voilà, enseignante-chercheuse à l'École supérieure en arts et technologies des médias du cégep de Jonquière. Même cégep et même programme que j'ai côtoyé. Le temps d'antenne est un privilège. Ce qui est entendu peut influencer et être reproduit par une partie des auditeurs. Ce qu'on entend en ondes devient une norme acceptable dans la société. Je comprends. Mais... encore une fois, est-ce qu'on... ben pour l'oreille, c'est sûr qu'on entend un peu plus lorsque les personnes vont parler en langage familier, entre guillemets. Mais en même temps, on l'entend aussi quand une personne va pas être plus articulée, mais va respecter les règles syntaxiques prescrites par notre langue écrite. Animateurs, journalistes, chroniqueurs ont été analysés. 134 personnes au total des émissions du matin qui ont été analysées. Et on se fâche pour des mots comme « char »,« ferrette », »,« niaisage », »,« poignée » ou « cossin ». Est-ce que réellement, on se fâche parce que quelqu'un va dire, tu sais, le cossin, là. Cossin. Oui, c'est un québécisme. Puis même en le disant, j'ai un doute. Mais est-ce que c'est si grave d'utiliser des mots de tous les jours? Si on a cossin en tête... faut-tu dire patente à gosse? <C'est>... Non, mais l'objet quelconque, le petit objet dont je ne me rappelle pas le nom, c'est beaucoup plus long que cossin. La chercheuse a également constaté l'utilisation de mots très familiers. Tabarnouche, tabarnane. La moitié des cas, 17 émissions sur 40. Le quart des émissions contenait carrément des mots vulgaires, soit des jurons, des mots relatifs à la sexualité ou à la scatologie. Il y a beaucoup de sacres en ondes, note la chercheuse. On s'attendait à y retrouver du langage familier des anglicistes, mais le vulgaire, ça, c'est nouveau. On parle quand même d'émissions matinales qui oscillent entre information et divertissement en donnant la météo, la circulation, les sujets du jour, poursuit-elle. Il y a un certain standard professionnel à maintenir. On n'est pas dans un podcast d'humour. Sentez ici la hargne, sentez ici le jugement de... on n'est pas dans une conversation de podcast. Et en plus, c'est un anglicisme, madame la chercheuse. On aurait pu dire une balado-diffusion. Le code grammatical et syntaxique n'est pas non plus toujours bien respecté par les professionnels de la radio. Presque toutes les émissions de l'étude contenant des constructions boiteuses, c'est-à-dire des phrases tronquées ou reformulées. Les trois quarts comptaient des erreurs de préposition, d'accord ou de genre. Je suis le premier à faire le, la, un, une. Dans le doute, Mais justement, quand on raconte une anecdote, quand on raconte une histoire, quand on raconte un souvenir, quand on veut juste parler de quelque chose qui s'est produit la veille, par exemple, on pense pas nécessairement, parce que c'était spontané, on pense pas nécessairement à construire chacune de ces phrases dans sa tête avant de les dire. On veut être spontané. On veut y aller, justement, de cette anecdote qui vient de nous arriver, qu'on veut raconter aux auditeurs. Fait que je comprends l'idée. Ou peut-être, dans certains médias, il y a une qualité de langue à laquelle on peut s'attendre. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que toutes les émissions devraient obligatoirement avoir ce français standardisé qui n'existe que dans les films doublés au Québec? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose à laquelle faut dire... Voilà une autre phrase qui n'a pas de sens, mais à quel point c'est vraiment la pire affaire qui ne peut pas arriver. Parce que veut, veut pas, justement, cet écart-là de langage, cette espèce de prédominance-là, de vouloir bien perler, de bien articuler, de bien prononcer toutes les syllabes de chaque mot, ça donne un autre ton complètement. Et justement, cet esprit-là de vouloir être avec ses amis, parce qu'essentiellement, la radio, c'est quoi? C'est de vouloir discuter avec l'auditeur d'une certaine manière, de vouloir être avec eux, de leur raconter quelque chose tout aussi intéressante qu'elle peut l'être, la plus, en tout cas, on l'espère. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que les émissions sont de moins bonne qualité parce qu'on échappe un « Hey, la gang! » ou on échappe « Bon week-end, la gang! » Personnellement, je vais dire « Bonne fin de semaine! » Parce que justement, « Fin de semaine » existe. « Week-end », c'est pas mon thème préféré, mon terme préféré. Mais il y a des émissions de radio qui s'appellent « Le week-end à » Les matins du week-end, le week-end à l'animateur, tu sais. C'est sûr, ça aide pas. La gang du matin, c'est dans le titre des émissions, ces expressions-là anglophones. Est-ce qu'on appelle ça le groupe du matin pour autant? Peut-être l'équipe du matin. Mais encore là, l'équipe du matin, c'est un peu moins parlant que la gang du matin. C'est sûr. Est-ce qu'on peut faire attention? Évidemment, il y a toujours place à l'amélioration. Mais cette place à l'amélioration-là, il y a 20 ans, on le disait déjà, l'avenir du français dans l'information est plutôt rassurant. Au fil des ans, les secteurs de la presse écrite et de l'information radio ont été moins touchés par les excès de familiarité ou la dégradation relative de certains aspects de la langue, écriait le non moins controversé Guy Bertrand à Radio-Canada. Les communications de la radio et de la télévision doivent souvent improviser en direct plusieurs textes qu'ils livrent. Les bafouillages, les lapsus, les tournures lourdes ou un peu maladroites et les impropriétés sans gravité sont excusables dans une émission où l'improvisation tient une place importante, dit-il. Même Guy Bertrand dit que c'est correct de un peu se tromper quand on est en direct. Et il disait ça il y a 20 ans, donc je pense que ça s'applique encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. La simplicité, la convivialité et dans une certaine mesure la familiarité sont des qualités médiatiques appréciées et même recherchées par une majorité d'auditeurs et de téléspectateurs. Donc, si même Guy Bertrand dit qu'on doit s'attendre à ce que les gens veulent entendre un contenu qui est pas, qui ne sonne pas uniquement pour les érudits, ben il faut pas s'inquiéter non plus qu'une fois de temps en temps, une tournure de phrase ne sera pas correctement syntaxée. Si ça se dit correctement syntaxée. Mais, ben oui, ça, en tout cas. Mais, est-ce qu'il y a trop de familiarité? Oui, la question peut se poser, mais il ne faut pas non plus virer fou et revenir à un code de langage qui existait il y a 40 ans. C'est sûr que ce n'est plus la même norme. Les générations sont un peu plus jeunes. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement le même parler qu'un animateur de radio de 70 ans et plus. C'est trois générations différentes. Trois niveaux de générations différentes. Fait on doit être en accord avec son époque, peut-être. Question lancée. Faut te pause au retour. La suite du deuxième service ici même sur les ondes de CFAQ 80.3 et de Chiz 94.3. Valence, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Je viens de voir le temps, donc finalement, on va peut-être avoir un petit peu moins de temps que prévu. On va attendre la pause, on reviendra au cinéma. Cette semaine, on a le droit à une sortie... On va changer de sujet. Cette semaine, on a le droit à une sortie pour... tenter peut-être, ou en tout cas faire une tentative, disons ça comme ça, de redorer l'image de France-Hélène Duranceau. Parce que, on l'aura vu dans les dernières semaines, s'il y en a une qui manque peut-être un petit peu de compassion pour les dossiers à laquelle on va l'associer, ou du moins pelleter dans sa cour à certaines occasions, soit l'immobilier, l'habitation, ben il y a certaines choses qui ne sont pas passées dans le cas de France-Hélène. Notamment, lorsqu'elle a été annoncée de la construction de bâtiments, elle portait dans les pieds des souliers Le Bouteille à 1 200 $ et c'était comme des logements, des HLM, des logements à loyer modique, des habitations à logement... Des habitations à loyer modique. En tout cas. Puis, bon, voilà, l'espèce de d'être pompeuse, d'être une marquise. En entrevue, ben, si les gens veulent passer les bails demain, ben, qu'ils deviennent propriétaires. Elle est allée d'une déclaration « Je ne manque pas de cœur ». Tu sais, en voulant dire, je ne suis pas complètement insensible non plus. Mais elle avoue quand même, candidement, que si j'ai une amie qui a besoin de pleurer sur une épaule, ils m'appelleront pas moi, parce que je suis pas non plus la personne la plus réconfortante au monde, sans surprise. Mais tout ça pour dire que, bon, elle a décidé de donner des entrevues cette semaine pour justement dire « Non, 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 je ne suis pas le personnage que vous décrivez. Je ne me fous pas du monde. » La déclaration exacte qu'elle a faite. Donc, souliers à 1 200 $, déclaration controversée, manquement au code d'éthique, parce qu'on a commencé à entendre parler d'elle parce qu'elle avait favorisé une de ses chums agentes immobilières à aller parler avec, c'était la ministre des Aînés, sauf erreur, en tant que lobbyiste, mais plus ou moins clair non plus que c'était en tant que personne qui doit être annoncée dans ces rencontres-là. La ministre de l'Habitation, responsable de l'Habitation du Québec, n'a pas qu'une crise de logement à gérer. Elle doit aussi composer avec une crise de perception qui la touche directement. Et c'est pas sans rappeler l'affaire des souliers à 1 200 $ à France-Hélène. C'est pas sans rappeler, il y a quelques années, les grands foulards de Pauline Marois. On se souviendra que... lorsqu'elle était pour devenir la chef du Parti québécois, c'était la Madame Pimpante, c'était la Castafiore, tu sais, le nez en l'air avec ses grands foulards. Fait que, tu sais, toujours bien habillée et hop, les foulards ont disparu dans le cas de Pauline. France-Hélène, elle, perce ses signes, elle va quand même mettre ses talons hauts, mais évidemment que le deux poids, deux mesures vient encore une fois jouer énormément là-dedans. Parce que, comme certains analystes le disaient, tu sais, on a beau capoter avec les souliers à 1 200 $ de la ministre de l'Habitation, mais combien de ministres hommes, eux, portent des Rolex à 5 000, 10 000 $ et que ça, il n'y a pas de problème? Posez la question, tu sais. Et c'est un peu ça aussi qui est vrai. T'sais, autant on peut s'acharner sur le fait que France-Hélène manque de compassion et qui, ben, donne l'impression de manquer de compassion et de ne pas être parlable plus qu'il faut. Parce que les dernières fois qu'elle a mis des projets de loi également, c'était « Oh non, c'est ce que j'ai fait, sinon je quitte l'endroit puis on en reparlera quand vous serez d'accord avec moi. » On se souviendra de cet épisode-là en chambre également. Il y a quelques semaines à peine, un courriel de sa propre équipe a été envoyé par erreur aux journalistes. Donc, plutôt que de répondre en équipe, le stagiaire, probablement, de France-Hélène a expliqué, a envoyé une réponse directement au journaliste en disant « Est-ce que je donne une vraie réponse ou... » Est-ce que je la ghost ou je donne la réponse habituelle? Tu sais, en voulant dire, je dis-tu qu'on se préoccupe de l'éducation... Attends un peu, je vais retrouver la bonne citation. Je la ghost encore, sinon réponse habituelle qui répond pour dire que l'habitation, c'est une priorité de notre gouvernement. Tu sais, en voulant dire, j'envoie-tu la petite phrase habituelle de notre première priorité au gouvernement de François Legault, c'est bien sûr l'habitation et que chaque Québécois français blanc de souche ait un toit à se loger sur la tête et nanana. Ou je réponds pas. Donc déjà là, même son cabinet non plus, ben, qu'elle-même étant nouvelle ministre, étant difficile à travailler avec, évidemment qu'il y a un roulement de personnel dans son bureau, donc les gens sont un petit peu moins à l'aise, mais au lieu de faire répondre à une personne, ça a fait répondre à tous. Donc les journalistes se sont fait dire, est-ce que vous voulez la réponse habituelle de notre première priorité au gouvernement Legault, c'est l'habitation, ou est-ce que je réponds pas? Ironiquement, France-Hélène Duranceau, à cet article-là, a répondu la phrase habituelle « Ce n'est pas non, nous n'allons pas vous ghoster. La première priorité au gouvernement, c'est l'habitation. » Donc, elle a répondu l'option B, au sens où on ne ghostera pas, mais on va dire que notre première priorité, c'est l'éducation. Mais après ça, de faire cette sortie-là, de dire que je vais m'améliorer, que je vais devenir une meilleure ministre, ben, elle aura 2 ans pour le prouver. De toute façon, elle risque pas de gagner ses élections, elle non plus. Mais ça reste quand même qu'en ayant fait cette sortie-là cette semaine, entre autres chez Radio-Canada, ça va faire en sorte qu'elle sera encore plus scrutée à la loupe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour voir si réellement il y a un effort qui est fait de sa part ou si finalement ça va juste passer dans le beurre puis elle va retourner à ses occupations d'agente... Non, elle n'est pas agente immobilière, elle... comptable ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, avec ses amis agents immobiliers, ça, il y en a quelques-uns, c'est sûr et certain. On s'arrête quelques instants au retour. Là, on va au cinéma pour vrai. Vous écoutez le deuxième service ici même sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Caravane avec Wow Minute ou dans un français acceptable. Attention, un instant sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Ça va me faire rire encore extrêmement longtemps, le bon français perlé à la radio. C'est ce qu'on voudrait chez certaines personnes, mais en même temps, on accepte la familiarité d'un autre côté. Allons maintenant du côté du cinéma avec AI, Ami Imaginaire, qui sort aujourd'hui même ce vendredi, mais cette fin de semaine-ci.
Salut.
Tiens, regardez qui voilà.
Je serai parfait pour elle, je te le promets.
Est-ce qu'elle t'a déjà vu?
J'allais me présenter.
Mais qu'est-ce que tu fais? Retiens-toi. Non.
Salut. Oh non.
Je trouve ça trop génial.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Bien, tu as parfaitement le droit de poser cette question, vu...
Je suis un AI, tu vois? C'est-à-dire ami imaginaire. Nos amis enfants ont grandi.
Alors, il nous en faut de nouveau.
Tu pourrais tous nous sauver.
C'est qui, tous? Et défense de dire AI.
Tu devrais l'autoriser à le dire, autrement sa tête va exploser.
Vas-y.
Merci, Béa.
Tu es prête à le faire? Qui sait ce qu'on va trouver derrière cette porte aujourd'hui?
On doit les aider.
Oui, bien sûr. Je te le dis pour la dernière fois, mais un pantalon, c'est pas un camp de nudistes ici. Je suis seul. On dirait qu'un enfant a créé un œil invisible. Un petit conseil, ne le regarde surtout pas dans l'œil.
De quel œil tu parles?
Ah, tu sais très bien duquel je parle.
Merci pour votre aide, ça me fait vraiment chaud au cœur.
AI, ami imaginaire, IF, Imaginary Friend, en anglais, bien sûr. Écrit et réalisé par John Krasinski, mettant en vedette Ryan Reynolds et Kelly Fleming, qui joue la jeune fille à New York, une fillette orpheline, ouais, en tout cas. Une fillette bien seule et un magicien. Clown magicien s'emploie à placer dans des nouveaux foyers d'accueil tous les amis imaginaires abandonnés par les enfants au fil du temps. Conte familial peignant à trouver la bonne focale thème. Bon, quoi. Ça, c'est la critique de Mediafilm qui est plus ou moins tendre avec le film. Et c'est malheureusement le cas pour à peu près toutes les autres critiques aussi qui trouvent que le film est un peu moyen. Pour ma part, j'ai eu un très bon moment au cinéma. Pour vrai, la prémisse est intéressante. C'est sûr que la version française rend beaucoup moins impressionnante peut-être la distribution anglophone qui, évidemment, mise énormément sur le fait que tous ces personnages imaginaires ou à peu près ont des voix extrêmement connues, ne serait-ce que Steve Carell, il y avait-tu George Clooney, Emily Blunt. Fait que, tu sais, le casting anglophone, donc peut-être vaut la peine d'être vu en anglais, ne serait-ce que pour les caméos de voix. Mais version française, évidemment, ça s'écoute également très bien. Évidemment, bon, c'est pas l'histoire à tout casser. Il n'y aura pas d'Oscar à gagner avec ça. Mais pour un premier film de Krasinski, ça marche. Là. Le gars, c'est un comédien bien connu, ne serait-ce que The Office. Et d'avoir été brièvement Monsieur Fantastique, on peut le replacer facilement. Il est long à partir, le film. Ça prend peut-être un bon 15-20 minutes avant que l'action parte pour vrai, qu'on commence à comprendre pour vrai ça va être quoi le rôle de la jeune fille, mais en même temps, pourquoi elle, précisément, si on le découvre plus on avance dans le film. Bon, c'est drôle, le résumé, puis en fait, les deux résumés de Mediafilm donnent les deux histoires, ben, la prémisse et l'histoire, ce que c'est pour vrai. Béa, 12 ans, vit avec son père à Brooklyn depuis que sa mère a été emportée par un cancer, alors que celui-ci est forcé d'effectuer un long séjour à l'hôpital. Béa emménage temporairement chez sa bienveillante, mais un peu tête en l'air, grand-mère. Livrée à elle-même la plus claire de son temps, la petite orpheline, voilà où vient le mot orpheline, fait la connaissance d'un voisin au comportement étrange vivant au dernier étage de l'immeuble. Il se nomme Cal, s'habille en magicien et dirige une agence de placement d'un genre bien particulier. Voilà un meilleur résumé de ce qu'est ce film. Donc, prenez des notes, Mediafilm. Montez ce résumé-là dans la première partie de votre article. Blague à part, non, c'est un... En fait, quel est le public cible? C'est là la question qui est peut-être à poser pour ce film-là. Est-ce que c'est un film pour la famille? Est-ce que c'est un film pour les enfants? Pour les très jeunes enfants? Non, pas trop jeunes. J'ai envie de dire peut-être un 8-14, mais en même temps, les thèmes, c'est des thèmes de deuil, de souvenirs, du temps passé, le temps qui s'en vient. Justement, avoir une amie imaginaire, mais l'oublier quand on vieillit, les souvenirs qu'on peut avoir du passé. Et dans ce cas-ci, ben, on parle de la grand-mère, on parle du père, on parle de la fille. Fait qu'il y a trois générations, parce qu'il y a des adultes. Certains amis imaginaires vont essayer de retrouver leur adulte. T'en as que c'est un peu plus âgé, t'en as que c'est plus jeune. Fait que tu sais, c'est sympathique, c'est le fun, c'est bien fait tant qu'à moi. Tu sais, j'ai... Les bouts émotifs, ils étaient très émouvants. Ça va, ça fonctionne. La musique aidant beaucoup, mais tu sais, les bouts tristes sont tristes pour vrai. Puis c'est ça, l'ours de l'homme inconnu qui a 94 ans, me semble, cet ours-là, qui dit, bon, l'important, c'est pas... L'important, c'est aussi de se remémorer le temps passé, de se remémorer les bons souvenirs de gens qui ne sont peut-être plus là. Fait que, tu sais, pour ça, tout ce qui est question de deuil, l'anxiété, etc. Fait que, tu sais, pour ça, ça fonctionne. La thématique marche. Est-ce qu'il y a des punchs qu'on voit venir? Évidemment. Tu sais, moi-même, je suis le premier à être impressionné pour des revirements de situation. Le gros revirement dans ce film-là, celui-là, il était un peu prévoyable, ou en tout cas, il était prévisible dès le début. On le comprend rendu à moitié du film, ça va être quoi le gros punch, entre guillemets, donc ça n'en est pas un tellement. Quoique, il y a certaines surprises quand même, justement, de réunification qu'on n'imaginera peut-être pas, puis de choses comme ça, puis... Pendant le générique, il y a d'autres personnages qui vont retrouver ou qui vont trouver des humains avec qui comme communiquer, tout ça. Fait que non, c'est un bon film, bienveillant, gentil, qui réinventera pas le genre, qu'on voit un peu venir la fin. Quoique, mais non, qui vaut la peine d'être quand même vu sur le grand écran. Puis Ryan Reynolds est plus présent dans la bande-annonce que dans le film en tant que tel. On mise vraiment plus sur la petite fille que sur Ryan, ce qui n'est pas mauvais non plus, parce que Ryan, on va le voir énormément dans Deadpool cet été, mais quand même. Donc, ça vaut la peine, malgré la critique tiède, tant qu'à moi. Moi, j'ai passé un excellent moment au cinéma. Très émotif, comme je peux l'être un peu tout le temps dans ce genre de thématique de film-là, mais ça en vaut la peine, ne serait-ce que parce que c'est intéressant et que la proposition est quand même le fun, même si ça a déjà été vu selon plusieurs, mais en tant que tel, c'est un bon moment, c'est pas trop long, quoi qu'il prend du temps à partir, mais ça vaut la peine, c'est une heure et demie-ish, 45, sympathique et le fun. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes CFA 88.3 et de chez 94.3. À la semaine prochaine. Salut.